Vous avez bien une anecdote à nous raconter.
Ah oui, je vais vous raconter.
Les médias de la guerre, une série de rediffusions, celle du 6 mai 2016. La bise à Zappy, Max.
Je passe mes soirées en tête à tête avec les vedettes de la radio. Ils emplissent ma chambre de leur voix, de leur gaieté. Ils sont gentils. Ils n'ont qu'un tort, ils ne m'écoutent jamais. Et ça finit par devenir exaspérant. On voudrait pouvoir les interrompre, participer à leur conversation. Rien, rien à faire, ils sont sourds. Alors un jour, on en a assez d'être ignorés. On prend sa plume et on écrit. Cher monsieur Zappy Max, depuis des mois, tous les soirs, je vous entends. J'ai l'impression que vous êtes devenu mon meilleur ami.
La radio, en ces temps lointains, ne songeait pas à être filmée et pourtant chacun reconnaissait Zappy. Cette petite moustache au-dessus d'une pape, ses yeux ronds qui sortaient du visage et cette silhouette toujours secouée comme un boisseau de puce. S'il était à ce point identifié, c'est qu'il pratiquait sur l'antenne de Luxembourg, l'aïeul de RTL, une radio buissonnière. 8 mois de l'année sur les routes avec son radio crochet et quitte ou double qu'il anima jusqu'en 1958. Les émissions se déroulaient souvent sous un chapiteau, parfois face à 4000 spectateurs. Le dompteur, il est vrai, disposait d'une arme pour les tenir, la publicité. Un soir, la structure de toile menaçant de s'écrouler dans la tempête, il réussit à évacuer la foule en lui faisant chanter, soumise comme chaque jour, « Dop, dop, dop !» S'il y a un homme qui associe comme naturellement la radio et la publicité, c'est bien Zappy, dans son fameux feuilleton « Ça va bouillir !» Il réussissait à défendre à tout bout de champ, face à la noirceur de ses adversaires, le tonneau, le vautour, l'île chinoise, la blancheur idéale que produisait la lessive qui patronnait cette hilarante radio novella. En 1966, Radio Luxembourg devint RTL, le nouvel actionnaire tel Bolloré aujourd'hui à Canal, congédia Zappy. Le service public songea à l'embaucher. « Vous seriez formidable ici, lui dit-on. » Attendez simplement un peu, il ne faut surtout pas qu'en vous voyant apparaître, l'auditeur entende un nom de marque. Zappy venait trop tôt.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Bonjour Zappy Max.
Bonjour cher monsieur.
C'est bien dit. Alors vous avez débuté dans le music hall, il paraît que l'harmonica c'était un excellent piège à filles.
C'était en effet un excellent piège à filles, parce que au feu de camp ou dans les auberges de jeunesse que je pratiquais assidûment avant la guerre, on leur demandait qu'est-ce que vous voulez qu'on vous joue. Et puis après, on flirtait un peu, puis on flirtait beaucoup, puis on flirtait encore plus, et puis.
Les 5 Mathurins, c'est le premier vrai groupe auquel vous appartenez, mais sous le pseudonyme de Zappy Max, vous voilà embarqué dès la Libération, dans l'orchestre de Jacques Elian. Vous vous souvenez tous, chers auditeurs, de la chanson. C'est une fleur de Paris. Pendant 4 ans, elle a gardé ses couleurs bleu, blanc, rouge, après Maurice Chevalier. Zappy Max l'a interprété.
Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur l'a conservé dans son tiroir. La fleur si belle. Un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'était notre âme, notre âme. Une Paris qui soumet. Car c'est la première heure du règne de nos jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Que nos roses, une victoire et la pleurée. Père de
Jacques Elian. Salut les jeunes qui appartiennent à son groupe, les propulse. L'orchestre est un excellent tremplin. Vous faites vos débuts à la radio et vous allez trouver parmi ces radios Radio Luxembourg qui a repris ses émissions en 1946. C'était un des postes les plus puissants de l'avant-guerre. Et il va y avoir peut-être 15 ou 16 millions d'auditeurs revendiqués à Radio Luxembourg dans 14, les années 1954. 14. Ne forçons pas sur les audiences.
Merlin annonçait 14 millions d'auditeurs.
Merlin. Louis Merlin.
Louis Merlin.
Le patron.
Oui.
Celui qui vous appelait régulièrement en disant « Zappy, j'ai un truc pour vous, il faut que vous arriviez
». J'étais un peu le pompier de service.
Et alors, il avait repris la formule du crochet qui avait été créé dans les années 1930, venu des États-Unis, dont vous pouvez peut-être nous rappeler le principe, même si régulièrement des radios le reprennent, France Inter, il y a peu d'années.
Le principe du crochet, c'est très simple, c'est un concours de chanteurs dans lequel on se plaît à sélectionner quelques mauvais chanteurs de façon à pouvoir les crocheter. Et pourquoi que ce terme de crochet ? C'est parce que lorsque le public huait un chanteur ou une chanteuse, un grand crochet sortait des coulisses et attirait le malheureux ou la malheureuse hors la scène. Et c'était animé par Saint-Granier.
Oui, mais Saint-Granier, quand en 1949, Radio Luxembourg reprend l'idée du radio-crochet, vous dites qu'il est vieux.
Oui, il aurait, près de 60 ans, dit « Tout ça n'est ni de mon âge, ni de mon sexe, ni de ma condition. »
Oui. Et c'est vous qui partez sur les routes.
Voilà.
Dans une opération de cirque.
C'est ça. Lorsque Merlin a lancé son idée de mariage du cirque et de la radio, ça a été le chapiteau des Gruches Jeannet qui est devenu le Radio Circus.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et vous aussi, chers amis auditeurs, bonsoir. Et nous voici comme chaque lundi sous le chapiteau du Radio Circus et vous allez pouvoir juger à votre tour les concurrents que chaque soir nous sélectionnons pour vous. C'est madame ou mademoiselle ?
C'est madame.
C'est madame.
La bise à Zappy.
Pardon, la bise à Zappy, mais bien sûr. Madame s'appelle Tarot, se prénomme Jeanne. Elle habite...
À Melécou.
Elle nous chante Ma Normandie.
Quand tout renaît en l'espérance et que l'hiver filme de nous sous le bon ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux.
Chère madame, je m'excuse d'avoir interrompu votre voyage en Normandie. Et nous chantons tous en l'honneur de madame.
Allons-nous faire la vie à paix. Allons-nous, c'est toujours un plaisir.
Retenons le nom de Dope, on y reviendra tout à l'heure. On a bien entendu, semble-t-il, le crochet, mais on n'a pas entendu vraiment claquer la bise. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs cette histoire de bise ?
Lorsque Saint-Granier animait le crochet, il avait inventé un point de règlement qui s'appelait l'article 12, qui lui permettait de déposer sur la joue droite et la joue gauche des personnes du sexe un baiser. Lorsque j'ai pris son relais, les gens ont continué à réclamer l'article 12. Moi, ça me gênait pas beaucoup, mais enfin, par honnêteté vis-à-vis de Saint-Granier, j'ai rétorqué à mes auditeurs, non, à mes spectateurs, pardon, non, moi, ça n'est pas l'article 12, moi, c'est, et le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est la bise. Louis Merlin était sous le chapiteau, et il me dit après, la bise, c'est très bien. Très, très bien, il faut garder. Mais ça sera encore mieux si vous la personnalisez. On va en fabriquer la bise à Zappy.
Décidément, ce patron, il est omniprésent. Un jour, Louis Merlin rentre des États-Unis. Il vous appelle. Zappy, j'ai trouvé un truc extraordinaire aux États-Unis, c'est pour vous.
Et c'était le kit ou double. L'émission aux États-Unis s'appelle Double Nothing. Et là, il me raconte, il me dit, voilà, le candidat est interrogé, on commence à telle somme, la deuxième question, il y répond au double, troisième question, on répond redouble, etc., etc., par progression arithmétique. Et entre les questions, des vedettes de la chanson, des comiques, dit que viennent, je dis, oh là là, là, là Louis Merlin, patron, car je l'appelais patron, non, je ne me vois pas du tout avec vos vedettes de la chanson, vos attractions, tout ça, non. Moi, je vous propose, si j'anime le Qui tout double, on travaille sur le suspense, uniquement les questions, le candidat et l'argent. Il me dit, vous croyez ? Je dis, oui, vous verrez. Et c'est moi qui avais raison, car le Qui tout double est devenu, excusez-moi cette vantardise, le jeu le plus écouté à cette époque sur l'antenne de Radio Luxembourg.
Combien de millions d'auditeurs ?
14.
14, vous y tenez à votre chiffre. Dites-moi, je tiens au suspense. Est-ce que le suspense, ce jour, ce soir, à Chantilly de 1952, était-il aussi extraordinaire que vous le laissiez paraître ? Le candidat, il est arrivé tout pelé, tout mouillé, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre a été député. Il commence à monter l'opération des chiffonniers d'Emmaüs. Il hésite à venir. J'ai arrêté de faire de la politique pour n'être plus un guignol. Je vais pas venir vendre des shampoings dope à la radio. Enfin, il accepte. Et voilà le questionnaire tout à fait extraordinaire qui se déroule face à lui. C'est une reconstitution dans le film Chiffonnier d'Emmaüs. André Rebaz joue le rôle de l'abbé Pierre et Zappy Max, celui de Zappy Max.
Combien, Pierre? 128 000 francs.
Monsieur l'abbé, vous en êtes à 128 000 francs. Je viens vous poser la question, arrêtez-vous ou continuez?
Si,
je continue.
Il continue!
Que signifient les initiales F-A-O?
Food and Agriculture Organization of ONU.
Parfait!
156 000 francs. Qu'est-ce que vous, monsieur l'abbé, arrêtez-vous, continuez.
Non, j'arrête.
Il arrête. Voulez-vous accepter ces 256 000 francs que vous offre monsieur Tiroir? Et je vais être très indiscret, si vous le permettez, je vais vous poser une question.
Je vous en prie.
Quel va être l'emploi de cette somme?
Cette somme va m'aider à construire des maisons à ceux qui couchent dehors.
Dites-moi, quand on réécoute les questions qui sont posées, je me demande si vous ne les avez pas préparées avec le patron, avec Louis Merlin. Combien de députés à l'Assemblée nationale, vous saviez qu'il avait été député et qu'il savait le nombre
si
de députés
avez...
La FAO, vous saviez qu'il était lié à la FAO à Rome.
Si vous avez lu mon autobiographie...
Oui, alors il faut que j'en donne les références.
Je raconte...
Mais qui tout double chez Dreamland, c'est fait.
Je raconte tout ça, toute l'opération en détail, parce que l'abbé Pierre était venu voir Louis Merlin pour essayer d'avoir quelques secondes dans le bulletin d'information. Et Louis Merlin avait dit, non, là, le bulletin d'information, c'est pas suffisant, ça passera trop rapidement, je vais vous mettre dans une émission qui a une... bonne écoute, et à l'occasion du gala annuel du Radio Circus, devant toute la presse, devant tous les sponsors, devant le public et les millions d'auditeurs à l'écoute, vous allez pouvoir parler de votre chiffon, de vos chiffonniers d'Emmaüs. Alors, il fallait qu'il gagne. Il ne pouvait pas perdre. Alors, Louis Merlin et moi, nous nous sommes mis. Dès qu'on avait quitté son bureau à Neuilly-Plaisance, le bureau de l'abbé Pierre, nous nous sommes mis une terrasse de café. On s'est dit, voyons, de quoi nous a-t-il parlé pendant qu'on était chez lui, là? Il nous a parlé de ça, bon, très bien, et ça, qu'il a été député, que oui, on notait au fur et à mesure, et on a fait le questionnaire sur ce dont on était certain qu'il avait les réponses.
C'était en 52, bien avant le fameux appel de l'hiver 1954. Vous avez continué, Qui tout double, jusqu'en 1958. Peut-être après, la vie de cirque s'est-elle peu à peu éloignée. Vous la retrouverez beaucoup plus tard. Ceci, c'est une chanson de vous, que je crois vous avez proposée à Jacques Ellian, à l'époque, sous les chapiteaux des cirques. Il y avait des lions, des éléphants, mais il y avait aussi des fakirs hindous qui se couchaient devant le public stupéfait. sur des lits de clous.
C'était un vieux fakir hindou qui avalait sabres et clous. Tous les midis, plein d'appétit, il dégustait pour déjeuner un bon kilo de verre pilé. Notre bon vieux fakir hindou prenait la vie par le bon bout. Tout en charmant de gros serpents, il avalait sa flûte de pan. C'était un vieux fakir hindou. Oh, oh, oh. Il produisait sur toute la terre son numéro avec succès. On peut dire qu'il savait y faire, notre fakir réussissait. Mais un beau soir, quel désespoir, pendant qu'il mangeait du lapin, on le vit se lever soudain. Notre bon vieux fakir hindou devint rouge et bleu coup sur coup. En s'étranglant, c'est très vexant, il est mort ainsi sur le champ. C'était un vieux fakir hindou.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Sommes-nous couchés sur un lit de clous? Mais non, nous sommes en pleine volupté, je cite le chansonnier Jean d'Arsac. Si Mauriac est trop littéraire et Monterland trop distingué, nous, on s'en fout, on a Zabimax, c'est le témoin de ce vendredi. J'aimerais que vous nous racontiez, Zabimax, ça intéresse les auditeurs de France Inter, à l'époque où la publicité de marque arrive sur notre chaîne. Comment vous faisiez avec la publicité? Parce que, au temps du Radio Circus, vous étiez en contrat avec L'Oréal. Dop, 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 oui. C'était L'Oréal.
C'était L'Oréal.
Et alors, ça veut dire quoi, un contrat avec L'Oréal?
Ben, ça veut dire que, d'abord, je suis un contrat d'exclusivité. Je n'ai pas le droit d'aller dans d'autres émissions que celles patronnées par la marque. Les produits peuvent être différents, ça peut être une savonnette dans certaines émissions, un shampoing dans d'autres, voire une huile anti-solaire dans un troisième, mais il faut que ça soit toujours L'Oréal.
Vous êtes reçu plus d'une fois par Eugène Scheller, le oui. Papa de Madame Bettencourt, qui vous dit « je bois pas, je fume pas, j'ai rien à vous offrir ». Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit?
La première fois, ça a été pour le démarrage du Kit ou Double, parce que il s'inquiétait un peu que, sur les sommes astronomiques que ça pouvait atteindre. Aurez-vous la possibilité de stopper un candidat s'il grimpe trop? Je lui dis, monsieur Schweller, je ne me prête à aucune magouille, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Ou bien vous jouez le jeu, ou bien je ne fais pas l'émission. Il me dit, oui, mais encore. Je dis, écoutez, soyons francs. Lorsque quelqu'un arrivera à une somme importante, il s'arrêtera de lui-même. Il ne va pas s'amuser à remettre sur le tapis X millions de... Quoi, des millions de dit Schweller. Je dis, oui, enfin, mais dans des quelques centaines de mille francs. Ah oui, mais quand même. Enfin, finalement, il a dit, bon, ben allez, je joue le jeu et puis on verra bien.
Après, vous passez sous une autre casaque, Zabimax?
Oui. Je suis passé sous la casaque des Lever Bros, frères Levert.
Unilever plus tard.
Unilever, oui.
Et alors là, t'inventais un feuilleton radio patronné par une marque dont je ne donne pas le nom parce qu'on va l'entendre plus d'une fois dans l'extrait que nous allons passer. Ce sont les aventures quotidiennes d'un grand reporter dans des aventures rocambolesques où il doit faire face à Kurt von Straffenberg,
surnommé le tonneau de par sa corpulence.
Et à ses acolytes.
Alors là, ils sont nombreux. J'ai vu que vous aviez fait la liste, moi je l'ai oublié.
Il y a
alors,
le vautour.
Voilà, le vautour.
Et moi je ne connais que monsieur Li, le chinois, en outre.
Oui.
Il y en a d'autres encore.
Oh, il y a eu la tarentule, il y a eu le... je ne sais plus quoi encore.
Enfin,
parce qu'on changeait d'aventure tous les trois mois, à peu près. On démarrait une nouvelle aventure tous les trois mois. Et à chaque fois, il y avait naturellement un méchant en face de moi, voire plusieurs, puisqu'il avait des acolytes. Alors ça pouvait être un méchant ou une méchante. d'où la tarentule. Naturellement, c'est moi qui gagnais à la fin, c'est inutile de vous le dire.
Enfin, non, sans avoir été pendant de longs moments dans de mauvais draps.
Je cours un terrible danger. Je suis couché par terre dans la chambre de Ludo. Après de durs efforts, je suis presque parvenu à scier les cordes qui me liaient les mains. Et c'est cet instant où je suis presque libre que Ludo a choisi pour rentrer dans la maison. S'il vient directement ici, je suis fait comme un rat. Je travaille fiévreusement. Ça y est! Ça y est, mes mains sont libres! Vite, mes pieds maintenant. Je me lève d'un bond. Je cours vers le lit. Oui, j'ai juste le temps de m'allonger et juste le temps de vous donner un bon conseil, madame. Faites votre lessive avec Sunil. Voyez-vous, en me glissant dans ce lit où il n'y a pas de drap, j'ai eu la nostalgie de beaux draps bien blancs. Blancs, mieux encore, des draps lumineux, éclatants, des draps qui auraient bouilli avec Sunil. Oui, de nos jours, la blancheur seule ne suffit plus. Les bonnes maîtresses de maison exigent l'éclat. À la blancheur, Sunil ajoute l'éclat. Bon, allez, assez parlé. J'ai juste le temps d'arranger mes liens pour que Ludo ne s'aperçoive de rien. La porte s'ouvre. Voilà Ludo.
Vous le saurez demain en écoutant le 1778e épisode de notre grand radiofeuilleton.
Ça va bouillir!
Une émission des programmes de France, écrite par Saint-Julien, offerte par Sunil.
Sunil? Sunil, oui Sunil, Sunil bleu, ajoute l'éclat.
Mais imaginons, Abimax, que l'état-major d'Unilever, les frères Lever, veuillent changer leur fusil d'épaule, que ce soit Homo qui doivent être promus à la place de Sunil. Alors,
c'est ce qui est arrivé.
Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là?
Hier est devenu, c'est parti mon zapi.
Et vous avez changé de personnage?
Non, je suis resté Zappy Max, mais au lieu d'être le reporter de je ne sais plus comment s'appelait le premier journal, on a mis un autre journal, un autre magazine, et puis les personnages qui étaient autour de moi ont changé de voix. C'était peut-être les mêmes comédiens, mais c'était des voix différentes.
De sacrés comédiens, hein?
Oui.
Rosie Vart en était, par exemple.
Oui, Rosie Vart, Roger Carrel...
Pierre Tornade, oui, Maurice Chevitte...
Enfin, toute l'équipe de gros bras, si j'ose dire, en parlant des gosiers de ces messieurs et dames. Mais c'était vraiment des merveilleux spécialistes pour ce genre de choses.
Ce qui est constant dans votre carrière, c'est le déplacement. C'est le goût de faire de la radio en extérieur. Par exemple, Ça va bouillir, c'était au théâtre du Ranelagh, tout près de la maison de la radio, où vous parcouriez les couloirs, le hall, vous asseyiez dans de vrais fauteuils, il y avait de vraies ambiances.
Et on tirait des vrais coups de feu, à blanc, il faut bien le dire, ce qui un jour nous a fait une descente de police, parce qu'une voisine avait dit, je ne sais pas ce qui se passe au théâtre du Ranelagh, j'entends des coups de feu. Alors la police est arrivée et il a fallu que nous montrions patte blanche, ce qui était facile puisque c'était patronné par Sunil Bleu qui ajoute l'éclat à la blanche.
Si, vous le dites très bien encore, si à mesure que la publicité de marque avance, la radio peut se déplacer en proportion, ce serait formidable pour l'avenir. 1966, changement d'actionnariat. Je fais le parallèle avec Bolloré arrivant à Canal+. Tous des nuls, tous des vieux. Mes enfants, ils écoutent pas ça.
Mais oui, c'était un autre mot qui avait été employé, un mot de 5 lettres.
Ouais.
Tout ce qu'il y a avant moi, c'est de la...
Ouais. La famille du raton s'interrompt entre deux séances.
Il y a une anecdote qui m'a été racontée par Gilbert Cesbron. Je pense qu'elle est vraie. Parce
Gilbert Cesbron, le romancier catholique, s'occupait à ses heures perdues des programmes de Radio Luxembourg.
Absolument. J'espère qu'elle est vraie. Donc, et il paraîtrait que le général de Gaulle avait mis sur le compte des journalistes de Radio Luxembourg le fait qu'il avait échoué
au premier tour de l'élection présidentielle de 65.
Et il n'avait qu'une idée, c'était de faire payer à Radio Luxembourg cette espèce d'échec. D'où rachat de maximum d'actions de la société, minimum de blocage. Et puis on confie l'antenne de Luxembourg à Prouveau. Provost, qui était un homme de presse, qui ne connaissait pas grand-chose à la radio, qui a donc demandé à ses petits-fils « Qu'est-ce que vous pensez de Radio Luxembourg ?» Et les gosses ont dit « Nous, on ne sait pas parce qu'on écoute Europe numéro 1. »
Qui avait été créé peu d'années auparavant. Oui.
« Nous, on écoute Europe numéro 1. » Donc, Provost a dit « Bon, alors, le lendemain, en réunion, il a dit « Personne n'écoute Radio Luxembourg, il faut faire de l'Europe numéro 1. » Alors, il a nommé Farran comme directeur d'antenne, directeur des programmes, pour être plus précis, et avec mission de débarquer tous les animateurs vedettes de la station. D'où la charrette, et dans cette charrette, Jean Nohain, Marcel Faure, Jean-Jacques Vital, moi et encore quelques autres.
Difficile quand même à 45 ans. Alors, vous ne manifestez pas d'amertume sur les années qui ont suivi et qui ont souvent été des années de recherche d'emploi. Vous faisiez de la post-synchro, des animations. Vous avez fait beaucoup de théâtre aussi. Alors, je note La Biche en Polynésie, Cyrano à Lectoure, le festival de Barentin en Normandie, etc. Vous avez retrouvé les routes.
J'ai fait énormément de théâtre. Depuis cette période-là jusqu'aux années 2000-2002, et le plus souvent en tournée. D'où les routes dont vous parlez.
Et puis un rab après, pendant une dizaine d'années sur RMC, qui est tout double de Rochef.
Oui, pendant 10 ans. Mais là, j'ai fait attention. J'ai pas mis mes deux pieds dans le même sabot. J'ai gardé mes habitudes de théâtre, enfin mes emplois de théâtre. Et puis je faisais les enregistrements. Je consacrais les enregistrements du Qui tout double RMC un jour par semaine. Et les autres jours, je rejoignais les théâtres à droite, à gauche.
C'est une libération de ne plus être célèbre.
Non. Ça n'a pas changé grand-chose pour moi. De voir, j'ai jamais eu l'impression d'être célèbre, vous savez. On veut bien me dire maintenant que j'étais la grande vedette, que j'ai été l'animateur le plus payé de l'époque, que etc. Bon, c'est peut-être vrai, mais moi, je ne m'en apercevais pas. Moi, j'étais un bon artisan, je faisais mon boulot, j'étais content quand on me disait « c'est bon, ça marche, continuez », etc. Et c'est seulement maintenant, quand les gens viennent me voir dans les salons du livre, où ils me disent « ah, oh, ça pue mal, que vous avez versé ma jeunesse », que je me rends un peu compte de, de l'emprise que j'ai peut-être eue sur les ondes. Mais à l'époque, je m'en apercevais pas.
Et puis, vous n'aviez pas d'autre souci que celui du lendemain immédiat pour faire correctement son travail le lendemain comme le jour présent.
Quand allons-nous nous marier ?
Nous marier ?
Nous marier ? Quand allons-nous nous marier ? Fiancée adorée ?
Quand tu auras de beaux cheveux ?
De beaux cheveux ?
De beaux cheveux. Quand tu auras de beaux cheveux éclatants et soyeux.
Je les aurai demain matin.
Demain matin ?
Demain matin. Je les aurai.
Et le lendemain, elle avait utilisé la brillantine lustrale Cadoricin.
Frédéric Martin, tiens, ça rime avec Cadoricin, a préparé cette émission consacrée à Zapimax, dont on peut lire plusieurs livres, dont les références sont indiquées sur notre site, notamment Mais qui tout double chez Dreamland. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, évidemment avec à la technique Florent Layani.